Bonsoir. Processus électoral. Martin Fayoulou, président du parti politique SID, parti de l'opposition, annonce que son parti ne déposera pas les candidatures de ses membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent en la matière. Il a dit au cours d'une conférence de presse à Kinshasa hier lundi 19 juin 2023. Martin Fayoulou indique que le processus électoral en cours est mal engagé et il faut un minimum de consensus autour des règles des jeux et les principes devant conduire les acteurs aux élections de décembre 2023 pour corriger les erreurs du passé. Il demande à la communauté internationale de se montrer sensible à la souffrance et à la dignité du peuple congolais et soutenir sa marche irréversible vers la démocratie et l'état des droits et de n'envoyer aucune mission d'observation à une parodie d'élection. Quelle lecture faire de la déclaration du président du parti politique SID? Nous en parlons ce soir avec le professeur Devos Kitoko. Il est secrétaire général de l'SID, parti politique, membre de la coalition Lamoukia. Professeur Devos Kitoko, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Joseph Senda avec nous aussi dans ce studio, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, Seigny en sigle. Joseph Senda, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Christian Moleka, analyste et coordonnateur de la dynamique de la des politologues, de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 500. 72. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, Martin Fayoulou Madidi, président du parti Engagement Citoyen pour le Développement, et SID en sigle, affirme qu'il ne déposera pas des candidatures des membres de sa formation politique à tous les niveaux des élections. Il exige la transparence dans toutes les opérations liées au fichier électoral et celui-ci doit toujours, selon lui, être audité par un cabinet extérieur compétent en la matière. Par ailleurs, il appelle la présidence de la SADC et le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville à mettre ensemble toutes les parties prenantes au processus électoral en vue d'un consensus. Martin Fayoulou s'est ainsi exprimé lundi 19 juin 2023 au cours d'une conférence de presse ici à Kinshasa. On l'écoute dans ses propos recueillis par Paul Matendo.
Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur. Nous sollicitons l'implication des présidents de la SADC et du président de la République du Congo voisin, de manière à mettre toutes les parties prenantes congolaises ensemble afin d'introduire les collectifs nécessaires au processus et de s'accorder sur les règles du jeu électoral. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de s'organiser afin de ne point permettre la tenue des élections dont les résultats sont préparés d'avance.
C'était la Martin Fayoulou, président de l'SID. Professeur Devos Kitoko, vous êtes secrétaire général de l'SID, justement parti politique, membre de la coalition Lamouka. Qu'est-ce qui motive réellement cette position de Martin Fayoulou?
La position du commandant du peuple, le président élu Martin Fayoulou, est motivée par les soucis d'organiser dans les délais constitutionnels, les élections libres, transparentes, impartiales, apaisées et inclusives. C'est ce souci qui l'anime pour réclamer que le fichier électoral soit refait et audité par un cabinet international compétent à la matière.
Est-ce que ce n'est pas contradictoire lorsque vous exigez des élections dans les délais constitutionnel et en même temps vous demandez la révision du fichier électoral. Le train est déjà en marche. Le 25, ça sera déjà la convocation de l'électorat pour les législatives. Ne pensez-vous pas que vous risquez, si on doit répondre à vos revendications, vous risquez d'être à la base du glissement?
Madame, si vous êtes à la gare, et on vous demande de prendre un train dont les techniciens ont certifié que ce train est en panne et qu'il va dérailler. Il y aura une catastrophe naturelle. Est-ce que vous allez prendre ce train? Faudrait-il ne pas patienter un tout petit peu, réparer la panne et puis se rassurer que nous allons arriver à bon port? Je crois que...
patienter un tout petit peu, ça veut dire que vous êtes d'accord que... qu'il y ait un petit glissement, que l'on ne respecte pas la date des élections.
Il n'y a pas un problème de glissement, madame. Il y a un problème de se rassurer que les élections que les Congolaises et les Congolais attendent seront des élections libres, transparentes, impartiales et apaisées pour que les véritables vainqueurs qui sortiront de la volonté exprimée librement par les Congolais, soit proclamée. Nous n'avons pas besoin d'une parodie d'élection. Nous n'avons pas besoin d'une élection dont les résultats sont déjà fabriqués, connus à l'avance, on attend une date pour les proclamer. Et donc, nous sortons d'une élection chaotique qui a conduit la nomination à la tête du pays des animateurs du sommet à la base. Et nous ne voulons plus que ce génocide électoral, ce crime politique électoral dont notre peuple a été victime, ces récidives, on n'en a plus besoin. Nous avons besoin dès aujourd'hui que toutes les parties prenantes comprennent que le pays, dans les préambules de notre constitution, a connu de multiples crises politiques à cause de l'illégitimité, du caractère illégitime des institutions et de leurs animateurs. Nous voulons y mettre fin en organisant des élections et de vraies élections libres, transparentes, impartiales, apaisées et inclusives.
Alors je l'ai dit, Martin Fayulu, président de l'ECID, il a annoncé que son parti ne va pas déposer les candidatures de ses membres à tous les niveaux des élections tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent en la matière, au cas où ces conditions ne sont pas réunies ou ne seraient pas réunies. Qu'est-ce qu'il ferait? Il va se retirer du processus électoral?
Madame, la réponse est déjà dans le communiqué du président élu, au point 6, et vous venez de faire passer l'exposé. Si les conditions d'une élection libre, transparente, impartiale et apaisée ne sont pas réunies, nous demanderons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution et de s'organiser afin de ne point permettre la tenue des élections dont les résultats sont préparés d'avance en faveur de M. Félix Antoine Tshilombo et son Union sacrée. Donc, nous avons là une fenêtre que la Constitution nous donne, que personne ne peut profiter de sa position pour imposer au peuple congolais un abattoir électoral et rester éternellement au pouvoir. S'il n'y a pas, madame, retenez ça, et les auditeurs doivent le comprendre, nous n'accepterons jamais une parodie d'élection. Et si les meilleures élections ne sont pas organisées, le commandant du peuple va mobiliser le peuple pour appliquer l'article 64.
Et vous pensez que le peuple va suivre votre mot d'ordre, alors qu'aujourd'hui on sait que beaucoup de gens attendent ces élections. La population attend ces élections.
Le peuple n'avait même plus besoin d'aller aux élections au regard du chaos que nous avons connu en 2018. Vous avez entendu la plupart des gens dire qu'ils sont fatigués de voter et de ne pas voir leur choix être respecté. Nous avons engagé des campagnes d'animation, de sensibilisation à travers le pays. Vous avez vu Martin Fayoulou prendre son bâton de pèlerin. Il est arrivé à Lissala. Vous avez vu les masses à Boende dans la Tuapa, en Bandaka, à Kisangani et partout à travers le pays. Il a sensibilisé les Congolaises et les Congolais pour qu'ils comprennent qu'ils doivent prendre leur destin à main. Aujourd'hui, si par aventure un monsieur ou groupe de citoyens ose encore s'accaparer du pouvoir dans le mépris de la volonté du peuple, le président élu va mettre le peuple dans la rue et nous allons appliquer l'article 64.
Alors la position de Martin Fayoulou n'est pas partagée par toute l'opposition. Moïse Katumbi par exemple, qui est votre partenaire, confirme qu'il va déposer sa candidature et celle des membres de son parti.
Madame, nous avons le meeting ce dimanche 25 juin au terrain Sainte-Thérèse. Le meeting devrait avoir lieu le samedi à la demande de la population qui redoute les affrontements entre nos militants et les participants aux différents concerts programmés à travers la ville le même samedi et même les participants aux différentes festivités liées à la journée du poisson, nous avons décidé à l'unanimité de repousser ce meeting le 25 dimanche. Donc nous serons dimanche, nous tous, quatre, devant le peuple à Sainte-Thérèse. Je crois que cette question n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui.
Joseph Senda, vous êtes directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Alors, toutes les parties prenantes, disons presque, au processus électoral demandent les mêmes conditions ou presque les mêmes garanties, la transparence et l'inclusivité. Que fait exactement ou concrètement la CENI pour rassurer les acteurs majeurs du processus électoral?
Merci beaucoup, madame, pour la parole. Il y a quelques mois, nous étions dans l'opération de révision du fichier électoral. Au même moment, et même peu avant, nous avions ouvert nos portes à l'observation électorale. Nous avons reçu 1433 observateurs électoraux, mais nous n'avions reçu que 8 dans moins de partis politiques. Ouvrir ces opérations ou ces activités à l'observation électorale, c'est déjà un souci de transparence. On ne peut pas ne pas faire ce que nous avons fait. Lorsque nous avons terminé la révision du fichier électoral, nous avons organisé les journées portes ouvertes. Toutes les parties prenantes sont passées voir ce que faisait la CENI.
L'opposition y compris, la MONCA.
Sans exception. Sans exception, on a ouvert les portes à tout le monde. S'il y en a qui ne sont pas venus, ce n'est pas de notre faute. Nous avions ouvert la porte pour que tout le monde vienne voir ce que nous sommes en train de faire. Après l'audit interne, nous avons procédé à un audit externe. Et là, nous voulons insister sur un élément. Nous entendons beaucoup de gens dire qu'il fallait recourir à l'OIF parce qu'une institution internationale de renommée. Mais il faut qu'ils aient le courage de reconnaître que c'est la Commission électorale nationale indépendante, par son chef, son Excellence Denis Kadima, qu'une mission de l'OIF a été ici. C'est la CENI qui a invité l'OIF pour auditer. Autrement dit, la CENI n'avait rien à cacher à qui que ce soit, parce qu'elle a recouru à l'OIF.
Mais le délai accordé pour la révision du fichier était trop court selon l'OIF.
Non. Madame, le 26 novembre 2022, nous avons publié notre calendrier. Et l'audit y était déjà inscrit. Personne n'a pensé à ça. Et je vous dis que la raison avancée, c'était une raison, mais la réalité, l'OIF a dit, personne ne veut de nous, parce que notre présidente est une Rwandaise. Toutes les parties prenantes, y compris la société civile, personne ne voulait de l'OIF, à la simple raison que le président était une Rwandaise. La deuxième raison, leurs deux grands experts étaient à Madagascar. Alors pour couvrir tout ça, ils ont avancé l'élément durée, mais ce n'était pas ça. Donc, voyez comment nous avons procédé. Nous avons accrédité les observateurs pour qu'ils nous suivent. Nous avons procédé à l'audit interne avec journée porte ouverte. Les bonnes volontés sont venues. Ceux qui ne sont pas venus ne peuvent pas faire autrement. Nous avons procédé à un audit Et là, nous voulons faire remarquer aux uns aux autres qu'il n'existe aucune obligation légale. Il n'y a pas de contrainte légale à la CENI de tenir un audit. Ça relève de sa volonté pour garantir la transparence. Qui est audit ou pas, on n'aurait violé aucune disposition de la loi.
Alors, vous estimez que ce processus est transparent, Joseph Sénat?
Dans tous les cas, au stade où nous sommes aujourd'hui, le fichier électoral est à la disposition de l'ONIP. Donc, s'il y a des gens qui tiennent à l'audit, s'ils estiment qu'hier, la CENI ne voulait pas, aujourd'hui, ils ont la possibilité d'avoir l'ONIP, de prendre le même fichier et de le soumettre à un audit et qu'on nous dise où en seront les défauts.
Mais ça coûte quoi la CENI d'écouter l'opposition, d'écouter toutes les revendications de l'opposition et d'essayer de trouver un consensus?
L'opposition est un acteur politique. La CENI est une institution citoyenne. Si le politique estime qu'il y a des problèmes, les politiques savent à quelle porte frapper pour qu'on trouve solution à ces problèmes. La CENI est une institution citoyenne. Au même moment qu'il y a des gens qui estiment que la CENI ne fait pas son travail, comme il se doit, au même moment une frange de la population estime que la CENI fait bien son travail. Donc, nous avançons parce que nous sommes au service de personnes, sinon de la communauté nationale. Donc, les acteurs politiques qui estiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas à la CENI de venir, qu'ils vont frapper. Qu'ils aillent frapper à la porte appropriée. Les institutions de la République, notamment le Parlement, qu'ils exigent au Parlement de faire ce quoi-là. Nous apprenons qu'on a crié, notamment à la SADC. Bon, nous sommes en République démocratique du Congo. La démocratie, c'est une de conduite. Liberté d'opinion, liberté d'expression. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de faire des déclarations à caractère politique. Mais nous, en tant qu'institution citoyenne, nous sommes au service de la communauté et nous faisons tout ce que nous faisons.
L'opposition fait partie de la communauté.
Et mais oui, elle fait partie de la communauté. C'est parce que nous disons ces revendications qu'elle sache où les présenter. Parce que nous ne sommes pas au service d'une communauté, d'une composante. Nous offrons nos services à tout le monde. L'opposition s'y oppose, une autre partie accepte et nous avançons. Alors nous allons dire quoi? Parce qu'au même moment, il y en a qui s'opposent, il y en a qui acceptent.
La CENI est-elle prête à aller aux élections, à organiser ces élections sans une grande partie de l'opposition? Est-ce que cela va crédibiliser ces élections?
Madame, depuis 2006 jusqu'à ce jour, je ne pense pas qu'il y ait des élections auquel tout le monde a adhéré. Ça n'a pas empêché au pays d'avancer. Ça, c'est un des deux. Faisons marche arrière dans le passé. Quelqu'un avait créé dans ce pays opération tremblement de terre. La terre a tremblé où? Nous avançons parce que c'est au moins 100 millions de Congolais. Mais si par malheur des gens estiment qu'ils deviennent tout d'un coup le centre du monde, bon, on peut le leur permettre parce que liberté d'opinion et d'expression. Mais le pays avance. La CENI est au service de la communauté. Elle va organiser les élections selon son calendrier. S'il y a quelque chose qui bloque, ça ne sera pas de la faute de la CENI. Ça sera des forces exogènes à la CENI. Mais la CENI, elle est prête à organiser les élections.
Alors, selon vous, les revendications de l'opposition
moi, je ne suis pas là pour dire ceci ou cela. J'ai dit simplement qu'il y en a qui s'opposent, il y en a qui sont avec nous. Ça s'arrête
mais
là.
Mais la CENI avance. Le processus se poursuit.
Je ne peux pas refuser que l'opposition avance ses arguments. Il n'y a pas de raison. Elle avance ses arguments comme d'autres avancent les leurs, mais nous avançons. C'est tout, parce que nous sommes au service de la communauté, nous sommes soumis à un calendrier, une institution citoyenne, comme nous en connaissons, c'est ça, que droits de l'homme, etc. Nous avançons. Chacun tire sur nous comme il veut, chacun nous jette des fleurs, et on avance. Nous sommes une institution au service de la communauté. Donc on n'a pas à dire telle a dit ceci, telle a dit cela, non. Quand on ne veut pas, on sait que ça peut avoir des conséquences sur la marche de la République. Mais il ne faut pas commettre ça sur le dos de la CENI. Nous avançons. On n'a pas démontré jusque-là que nous n'étions pas transparents, que nous avions des choses à cacher. Nous vous avons bien dit que nous avons assuré l'observation électorale. Nous avons organisé des portes ouvertes. Nous avons fait un audit. Et nous disons qu'aujourd'hui, celui qui veut peut aller à l'ONIP récupérer le même fichier et l'auditer. Et nous dire, voilà ce que vous vouliez cacher.
Aux auditeurs qui nous suivent en ce moment, vous pouvez suivre cette émission en live sur la page Facebook de Radio Kiapi. Christian Moleka, vous êtes analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Comment vous analysez la déclaration de Martin Fayulu?
Bien, je constate que comme dans les passés, vous avez un processus électoral plein de méfiance. Un processus électoral dont tout le monde crie, bon, une partie des parties prenantes crie à l'absence d'inclusion, et que un tel processus soit nous menerait vers de la contestation post-électorale, ou comme le CID semble prendre maintenant les cas, celle de ne pas accompagner le processus. Et donc nous avons un processus à double vitesse, avec une partie des composantes qui estiment qu'il faut avancer, et un autre qui veulent véritablement d'un dialogue qui permettrait de rebattre les cartes et donc de pouvoir recréer une inclusion. Et donc nous avons, comme en continuité, des éléments d'acteurs partagés qui ne vont pas nous aider malheureusement à avoir des élections apaisées et donner au pays la stabilité nécessaire à parler développement.
Et qu'est-ce qui devrait être fait?
Je crois que d'un point de vue purement politique, l'opposition a raté le rapport des forces institutionnelles. Et contrairement à l'UDPS en 2011, elle n'a pas pu imposer non plus un rapport de force dans la rue. Si en 2011, l'UDPS n'avait pas la majorité au sein des institutions, c'est la bataille de la rue qui permettait de rééquilibrer les rapports des forces et donc d'amener probablement le pouvoir à négocier. Donc vous avez aujourd'hui une opposition qui n'arrive pas jusqu'à ce jour à imposer un rapport de force dans la rue pour pousser la majorité à reculer et donc à créer un équilibre dans le consensus. À défaut d'avoir un équilibre institutionnel et à défaut d'avoir un équilibre dans la rue, je crois que la majorité a davantage tiré les processus à sa faveur et donc à un processus plus ou moins plié. Et donc aujourd'hui, crier au retrait, c'est soit de constater que le rapport de force n'a pas été à sa faveur, et donc on décide de se retirer, soit c'est de mettre en place une sorte de carte de pression politique pour amener une médiation qui nous permettrait de rééquilibrer les rapports de force, parce qu'à ce stade aujourd'hui, d'un point de vue des rapports de force, l'opposition n'a pas réussi à imposer un rapport de force qui soit favorable dans le processus.
En fait, il ne se retire pas complètement, il pose des conditions.
Oui, des conditions, mais si vous prenez le délai dans le temps qui nous reste, si on devrait retoucher les fichiers, si on devait, avec la conséquence de la loi de répartition des sièges, il ne faut pas oublier que la loi a été votée, donc retoucher les fichiers, s'il y a de larges modifications, ça aura pour conséquence de revenir dans la répartition des sièges, donc vous avez un parlement qui est parti en vacances. Ensuite, ça aura de la conséquence dans la répartition des sièges et donc dans l'appel à candidature des élections, et donc on ira probablement vers un glissement. Donc je crois que l'opposition aujourd'hui est en difficulté parce que soit ils abordent un processus qu'ils estiment peu inclusif et donc peu crédible, soit ils se retirent, mais encore faut-il qu'ils arrivent à imposer un rapport de force qui leur permette de rééquilibrer le bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu aller plus loin, la CENI aurait pu nous aider. Je vois M. Senda nous dire que le calendrier publié, personne n'a dit. Non, mais lorsque le calendrier a été publié, la société civile a dit que le calendrier était très serein, que les délais qui étaient inscrits ne permettaient pas d'avoir une respiration nécessaire à des bonnes tenues d'élection. Et donc là, la CENI ne nous a pas aidés. Je donne un indicateur, je crois qu'il doit s'en souvenir. En 2018, la CENI a accordé 3 semaines d'audit externe, soit du 6 au 25 mai 2018 à l'OIF. 3 semaines. Et donc, nous avons eu 3 semaines d'audit externe qui a permis à l'OIF de faire son boulot et donc d'évacuer un élément de méfiance. Dans le calendrier Kadima, il n'y avait que 5 jours. Donc nous sommes passés de 3 semaines d'audit externe en 2018 à 5 jours en 2023. Ça veut dire que c'est un décalage énorme qui prouve que le calendrier était très serré. Et parce que lié à des contraintes de mise en place, lié à des contraintes de respect des délais constitutionnels, la CENI a produit un calendrier très serré. Il nous a mis dans les conditions où on ne veut pas avoir un audit de fichiers externe par une structure indépendante et donc à renforcer la méfiance de l'opposition. Et donc la CENI est également responsable de ce qui arrive aujourd'hui parce qu'elle aurait pu, en produisant un calendrier qui respire, nous permettre d'élever ces éléments de méfiance. C'est vrai, ce n'est pas une contrainte légale, mais c'est un élément important pour construire la crédibilité et l'intégrité du processus.
Faut-il aller aux élections dans ces conditions, Christian Molika?
Les élections n'ont pas pour finalité de nous avoir simplement des élections, les élections ont pour finalité de nous produire la stabilité. Est-ce que les élections telles que nous sommes en train d'aller aujourd'hui peuvent nous produire de la stabilité? Véritablement non. Nous avons une classe politique très divisée. Que nous allions les élections ou non, nous n'aurons pas de la stabilité. Et je crois que c'est aux acteurs politiques d'élever les options nécessaires. Soit il faut s'arrêter, recréer l'inclusion et permettre d'avoir un minimum de consensus pour aller, soit nous allons dans un processus et tout le monde sait que nous allons vers un processus sans consensus et nous aurons donc au sortir des élections une instabilité liée à une crise post-électorale telle que nous l'avons eu en 2006, telle que nous l'avons eu en 2011 et telle que nous l'avons en 2018. Peut-être la particularité, c'est que nous avons aujourd'hui un pays qui est très menacé à l'Est, des armées étrangères dans les pays et une cohésion nationale qui de plus en plus s'est affaiblie. Donc si hier, peut-être, on est sorti sans grand dégât des crises post-électorales, rien ne dit que le contexte actuel, avec la guerre que nous avons à l'Est, avec la cohésion nationale qui est très tirée, nous en sortirons toujours avec la même chance. Donc il faut que les acteurs politiques prennent le courage d'élever les obstacles qu'ils imposent, soit en mettant un pause au processus, soit alors en travaillant à rapporter plus d'inclusivité.
Place aux auditeurs qui sont très nombreux à nous écrire pour réagir au thème de ce soir. On va se rendre à Kisangani dans la province de la Tchopo pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, professeur Devos Kitoko.
Alpha Ben Sirac, depuis la ville de Kisangani. À mon humble avis, c'est une mascarade. Comme pour dire, il donne cause ce qui n'est pas cause. En réalité, Martin Fayou ne pourra pas digérer une candidature commune qui soutient autre leader de l'opposition que lui. Il a vu la tendance actuelle de la population qui soutient un autre leader que lui. Alors, pour échapper à cette tendance, il préfère sortir la tête haute en abandonnant les processus électoral actuel afin de bien se positionner.
Professeur Devos Kitoko.
Ouais, merci beaucoup. J'ai suivi l'auditeur, mais avant de revenir à l'auditeur, il faut clarifier certaines choses. Vous sentez l'arrogance et l'orgueil de M. Kadima dont son porte-parole est en train de refléter dans ses propos. On dirait le processus électoral, c'est une affaire d'un groupe de personnes qui n'ont rien à faire avec les autres. Et pourtant, madame, le processus électoral, c'est une affaire des parties prenantes. Ce n'est pas une affaire de la CENI, comme M. Joseph est en train de vouloir le faire attester. C'est une affaire des parties prenantes. Vous ne pouvez pas vous renfermer dans un carcan politique d'une famille politique bien déterminée, qui est l'Union Sacrée, au service de M. Tshisekedi, et penser imposer aux autres parties prenantes une pensée unique. Madame, nous avons eu les opérations d'enrôlement. Première erreur géographique, nous avons demandé que la cartographie soit publiée. Et quand ils ont publié la cartographie, nous avons relevé les déficits terribles. La coordination des opérations électorales de la Mouka Koel a fait des points de presse pour relever. Ils sont là, ils ont répondu. Et lorsqu'ils ont vu que la vigilance était au zénith, la deuxième ère et la troisième ère géographique d'enrôlement, ils n'ont pas publié la cartographie des centres d'inscription. Ils ont passé l'opération dans l'opacité totale. À la fin, ils ont produit un paquet brut de plus de 49 millions d'enrôlés. Mais qu'est-ce qu'ils devaient faire? Après avoir publié, il était question de publier par entité les statistiques d'enrôlement de ces 49 millions pour que les gens aillent regarder si les noms sont là, si les noms sont mal écrits ou quoi. Ça n'a pas été fait, madame. Et après l'audit du fichier électoral, il devait, ce qu'ils appellent audit, mais qui est un contrôle interne à la CENI, il devait publier les fichiers consolidés dans la site de la CENI. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, madame, des 49, aujourd'hui, il parle, s'il vous plaît, des 49, il parle des 43.
Il n'y aura pas beaucoup de temps, professeur.
Des 43 millions. Même vous, journalistes qui êtes avec nous ici, vous n'êtes pas sûr que votre nom s'y trouve, moi également.
Alors, vous pouvez répondre à la préoccupation de l'auditeur.
Oui, mais non, ça c'est, il est en train de raconter sa vie. Martin Fayoulou est le commandant du peuple. Il a été massivement élu, plébiscité par les Congolais pour diriger le pays. Aujourd'hui, nous n'avons pas à l'ordre du jour la question des candidats communs. Nous avons besoin de nous rassurer que le processus est transparent. Vous osez aujourd'hui parler du candidat commun. À quelle élection? Donc vous allez choisir un candidat à proposer à l'abattoir de M. Kadima et M. Tshilombo. Non, madame.
Merci.
Vous savez, nous sommes sereins et nous sommes convaincus que tous les théâtres que M. Kadima et tous ses partisans sont en train de faire au profit de M. Tshilombo pour imposer un second mandat frauduleux, toutes ces manœuvres seront défaites par notre peuple.
Merci, professeur Devos Kitoko. Joseph Fendon va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Luena, dans la province du Olomami.
Charles Mpoudika, depuis la ville de Luena, province du Haut-Lomami. À mon avis, la position de Fayulu qui rejoint celle du FCC est une sonnette d'alarme sur l'organisation du processus électoral qui est déjà entaché de beaucoup d'irrégularités. Si le pouvoir tenait mordicus de ne pas corriger certaines erreurs, la suite des événements sera à craindre.
La suite des événements sera à craindre si on ne rectifie pas les tirs, Joseph Senda.
Madame, le président Katumbi et Matata sont dans la course. Fayulu s'est retiré.
Il a posé des conditions.
Martin Fayulu s'est retiré.
Il ne s'est pas retiré.
Katumbi n'a pas posé de conditions, Matata n'a pas posé de conditions, et nous, nous avançons parce qu'il y a des partenaires de poids qui sont là-dedans.
Parce donc, que vous estimez que Fayulu, ce n'est pas un partenaire de poids?
Non, moi, je dis que je n'ai pas dit qu'il n'était pas de poids. Mais voilà. Je dis qu'il y a des partenaires. S'il vous plaît, monsieur, vous avez parlé, je n'ai pas réagi.
Merci, professeur. D'accord. Je vais laisser Joseph Senda s'exprimer.
Il faut faire attention.
Non, nous
donc,
comprenons.
S'il vous plaît, professeur.
Donc, monsieur Katumbi, monsieur Matata sont dans la course. OK? Si vous voulez, ils pèsent autant que Fayulu, s'ils veulent bien que ce soit ça. Fayulu qui pèse, c'est le tiers, s'il veut que ce soit ça. Des deux, pour revenir au bruit que je viens d'entendre, publier la cartographie des centres d'inscription n'est pas à confondre avec la cartographie des bureaux de vote. Il n'y a pas une obligation légale qui pousse la CENI à publier la cartographie des centres d'inscription. Ça, un de deux. Nous accréditons les partis et les groupements politiques et les acteurs de la société civile. La MOUC a une plateforme, il n'a pas droit à une accréditation. Ces observations, on peut ne pas s'en tenir compte. La MOUC n'est pas un parti politique. Et nous leur avions dit que vous n'êtes pas parti politique, vos observations, on peut les considérer, mais ça ne représente absolument rien du tout. Alors, pour revenir à la question de l'UNA, nous avions dit que nous sommes une institution citoyenne. Le politique, s'il veut arrêter, que le politique arrête, mais nous n'avons pas de raison d'arrêter. La CENI n'a pas de raison d'arrêter. Mais si les acteurs politiques estiment qu'ils doivent arrêter, ça ne nous regarde pas. Donc, que le compatriote de l'UNA sache que arrêter ne dépend pas de la CENI. La CENI avance parce que nous avons cité le président Katumbi, nous avons cité le président Matata, qui sont là, et beaucoup d'autres. Et pourquoi ne pas tenir compte de leur position? Ils estiment qu'ils peuvent faire confiance, et ils font confiance au processus électoral.
Ils ne font pas confiance. On a suivi Katumbi, on a suivi Délice Sang, on a suivi Matata Mponyo, qui ont presque les mêmes revendications.
Ce sont des politiques, s'ils veulent bien, qu'ils s'arrangent pour arrêter le processus, mais pas la CENI. Il ne faut pas demander à la CENI. Ce sont des acteurs politiques. Ils ont ce pouvoir-là d'arrêter le processus s'ils veulent, mais qu'ils ne comptent pas sur la CENI pour arrêter le processus, parce qu'il n'y a pas de raison de l'arrêter. Et là, nous faisons remarquer qu'il ne faut pas oublier que nous avons commencé avec 28 mois de retard. Donc ça peut expliquer en partie que le calendrier ait été un peu comprimé. 28 mois de retard. Je voudrais rappeler que Malou Malou 1 avait disposé de 36 mois. Okay? Nous avons commencé à préparer 2011 depuis 2007. Nous avons commencé à préparer 2018 et depuis 2011. OK? Et ici, nous avons commencé en octobre 2021 pour préparer 2023. 26 mois tout au plus. Donc, il faut qu'on tienne compte de cet élément-là. Et voilà, curieusement, un sens élevé d'irresponsabilité. On veut arrêter la machine et espérer les élections à la fin de l'année. C'est très irresponsable.
Christian Moleka, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction. Qui nous vient d'où déjà? Qui nous vient de Kinshasa?
C'est Japhet Eunga depuis la ville de Kinshasa. Vu comment le processus électoral est en train d'aller, le président Martin Fayulu a le droit, comme tout autre Congolais, de refuser ce processus électoral qui est émaillé avec beaucoup d'irrégularités. À mon avis, Martin Fayulu a utilisé une stratégie politique pour stopper la CENI afin de trouver un consensus entre les parties prenantes. Alors, si la CENI maintient sa position, Martin Fayulu n'aura pas d'autre choix que d'aller avec cette CENI, car s'il utilise la stratégie que le président Étienne Tshisekedi avait utilisée en 2011 pour empêcher le processus, à mon avis, il sera perdant et beaucoup dans son parti politique vont le quitter car nous connaissons le comportement de nos politiciens.
Christian Moleka.
Je dirais à Japhet que la politique comme stratégie est un jeu des rapports de force et donc le consensus n'est que l'équilibre de force. Et donc, sa stratégie ne pourrait être jugée comme payante si Martin Fayulu réussit à atteindre l'équilibre de force, c'est-à-dire imposer un rapport de force qui neutralise les acteurs et qui amène donc à ce consensus-là. Tant que les déclarations ne seront pas suivies d'une capacité à imposer un rapport de force qui crée la neutralité,
cette stratégie ne sera pas payante. Vous insistez beaucoup sur les rapports de force. On l'a vu, Martin Fayulu a organisé des meetings, on l'a vu se déplacer dans certaines provinces, il a drainé quand même du monde. Est-ce que ça ne suffit pas?
Non, mais en même temps, on a vu à Kinshasa une opposition qui, depuis certains temps, n'arrive pas à mobiliser comme auparavant. Ça aussi, il faut reconnaître. Depuis quelques temps, on n'a pas drainé les masses comme on arrivait à le drainer. Parce que le leader a fait une comparaison avec Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi et l'UDPS de 2011 avaient les capacités d'imposer un rapport de force dans la rue qui contrebalançait le rapport de force institutionnel. Et donc, tant qu'on n'aura pas cette capacité d'imposer un rapport de force qui contrebalance le poids institutionnel, eh bien, on n'aura pas le gain de cette stratégie-là. Donc, on pourra assister, certes, à une démarche de boycott comme en 2006 de l'UDPS, qui va servir de politique de chaise vide pour certains et profiter à d'autres. Il ne faut pas oublier qu'en 2006, l'absence de Tshisekedi a favorisé un Jean-Pierre Bemba et qu'on a vu la montée d'un Jean-Pierre Bemba. Donc l'absence de Katumbi, de Fayulu en 2023
pourrait ouvrir
le boulevard à Katumbi, à Matata et donc construire un nouveau leadership.
À Félix Tshisekedi.
Probablement, ou un autre opposant qui va prendre le devant. Il est lui-même bénéficiaire de l'absence en 2018 de Katumbi et tout le reste. Et donc, probablement, son absence également en 2023 va reconfigurer les rapports de force au sein de l'opposition.
Devos Kitoko.
Oui, madame. Aujourd'hui, le peuple congolais est témoin. Et aujourd'hui, ce peuple congolais a compris que la CENI, à travers les déclarations de M. Joseph Senda, est une branche de l'union sacrée au service de M. Tshilombo.
C'est madame, l'institution d'appui à la démocratie, Devos Kitoko.
Je le dis bien, madame. S'il veut se servir du président Moïse Katumbi, du président Délice Sanga et du président Matata Ponyo comme des boucs émissaires pour légitimer un second mandat frauduleux de M. Tshilombo, il doit savoir que le 29 mai 2023, nous avons signé ensemble les quatre candidats présidents de la République un communiqué conjoint. Et dans ce communiqué conjoint, les quatre dont il vient, les trois dont il vient de faire, auxquels il vient de faire allusion, ont déclaré ceci. Nous nous opposons vigoureusement à une parodie d'élection. C'est pourquoi les correctifs ci-après sont nécessaires. 1. Procéder à la confection d'un fichier électoral fiable, audité par un cabinet international dont l'expertise à la matière et l'indépendance sont avérées. Ce cabinet doit être recruté au moyen d'une procédure claire, régulière et sans aucun privilège. Donc c'est les trois dont il parle et qui ont signé ce communiqué, madame. Les signatures sont là. Donc,
vous avez suivi Joseph Senda. Oui. Si vous avez des préoccupations, il y a le Parlement qui est là, qui doit régler ce problème. Ce n'est pas à la CENI de décider de tout arrêter, de organiser une rencontre avec vous, vous qui vous opposez au processus actuel.
Madame, je viens de le dire, les élections, c'est une affaire des parties prenantes. Ce n'est pas une affaire d'une famille politique, comme M. Senda est en train de parler au nom de Tshilombo avec arrogance et nous demande à nous de choisir si nous voulons aller ou nous ne voulons pas aller. Parce qu'il dit que Fayulu s'est retiré. Fayulu ne s'est pas retiré. Fayulu n'a pas boycotté. Avec Lamouka et mon parti SID, nous n'avons pas boycotté les élections. Nous irons aux élections et nous irons aux bonnes élections, des élections libres, transparentes, impartiales et apaisées. Donc, aujourd'hui, vous pouvez monter et descendre. La CENI a démontré sa partialité et sa partie prise en faveur de Tshilombo. Et nous nous disons, quoi qu'il arrive, nous allons mobiliser le peuple. L'expert que vous avez invité vous parle de l'équilibre des rapports de force. C'est comme la mayonnaise. Ça ne prend pas en une journée. On est en train de secouer. On secoue, et le moment donné, ça va prendre, madame. Le 4 janvier 1959, les colonisateurs belges ne pouvaient jamais s'attendre que ce jour-là, c'était la fin. Et ça sera ainsi pour M. Tshilombo et son bras séculier, M. Kadimaé Sassine.
Merci, professeur Devos Kitoko. On va considérer cela comme votre conclusion. Joseph Sendai, il y a Paulin Senga de Kisangani qui dit ceci: Martin Fayulu a parfaitement raison de boycotter le processus électoral qui se pointe à l'horizon, d'autant plus que nul n'ignore à ce jour que ce processus électoral est parsemé d'irrégularités. Tant mieux de les boycotter. Comme dit un adage, il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Ce processus électoral est prévisible avec beaucoup d'irrégularités. C'est dommage que ceci réjouisse certaines personnes, mais cela donne une mauvaise image d'un pays qui se dit démocrate.
Bon, liberté d'opinion et d'expression. Il s'est exprimé comme Congolais, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il s'est exprimé comme un Congolais, il a donné son point de vue à côté d'autres qui estiment que nous allons avancer avec la CENI. Je ne peux pas couper la langue aux compatriotes parce qu'il a dit ce qu'il a dit. Mais je voudrais plutôt...
La CENI avance.
Alors, la CENI avance. Mais moi, je voudrais plutôt revenir sur un élément qui me paraît très important. Je regrette que 30 ans après, les propos de Wade soient toujours valables. Une classe politique superbement médiocre. On entend tous les bruits qu'on est en train de faire. Nous n'irons pas aux élections avec la machine à voter. On a vu ce qui est arrivé par la suite. Donc,
la classe politique congolaise est médiocre, selon vous.
Superbement médiocre. Wade a raison. Jusqu'aujourd'hui, Wade... Et il faut qu'ils reviennent, qu'ils tirent un peu tous ces gens-là. Peut-être qu'il va les réunir tous, y compris la Mouka, pour leur apprendre à être politique, comme il se doit, à être des hommes d'État. Ok? Une fois encore, nous disons, la CENI n'a jamais empêché à ceux qui voudront faire venir d'autres pour une audite. Elle n'a jamais empêché. S'ils estiment qu'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. La CENI n'a jamais empêché. La CENI a fait son travail. Nous répétons pour la énième fois, et les compatriotes nous suivent. S'il y a des compatriotes qui estiment que ça ne va pas, il n'y a qu'une seule voix. C'est le Parlement, ça allait vers le Parlement. Sinon alors, qu'il s'arrange pour qu'il y ait je ne sais quoi. Mais ce n'est pas à la CENI d'arrêter la machine. Elle fait son travail en âme et conscience. N'en déplaise à certains esprits. Nous avançons.
Merci Joseph Senda. Christian Molika, votre conclusion.
Les élections ne sont pas une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen pour nous permettre d'aller vers le plus important, qui est la stabilité et le développement. On aurait pu inventer d'autres façons de se choisir les dirigeants. Mais on a préféré cette façon-là, parce que pour nous, ce n'est qu'un chemin, ce n'est pas le point d'arrivée. Or, malheureusement, nous n'arrivons pas à faire de nos élections un moyen de stabilité. Et c'est dramatique que depuis 2006, nous sommes à notre 4e cycle, les élections ne nous aident pas à avoir la stabilité nécessaire. Donc nous allons probablement perdre une année à l'instabilité, à la crise de gouvernance, à rechercher le consensus, alors que le défi le plus important des Congolais, c'est le développement. Et sans stabilité, on ne peut pas avoir le développement. Et donc, malheureusement, comme toujours, nous sommes en train de refaire les mêmes erreurs depuis 60. Et donc, ça questionne notre capacité, comme élite, comme dirigeant, à asseoir un minimum de stabilité nécessaire au développement de ces pays. Parce que les Congolais attendent qu'on parle développement et qu'on réponde à leurs préoccupations.
Merci Christian Molika, merci professeur Devos Kitoko, merci Joseph Senda d'avoir répondu à notre invitation, dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir, vous avez été très très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi. Merci à Guimaté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission. La mise en onde était assurée par Jean-Noël Mokondo. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Merci à Clément Chimanga et à Fouanani qui étaient aussi à la technique. Bonne suite de programme, je disais, sur la fréquence de la paix. Bonsoir chez vous.